Et aujourd'hui, je vous présente le portrait de famille d'Isabelle Perrin. Isabelle, c'est une maman de 3 garçons, 2 grands garçons de 20, 24 ans et également de Thomas, qui est un adolescent maintenant, 13 ans, qui vit avec une déficience intellectuelle. Comme à l'habitude, vous commencez à le savoir, hein, l'émission se construit autour du parent invité, de ses intérêts, de ses réflexions, son expérience personnelle et familiale et son vécu. La photo que vous nous avez proposée présentement en circulation sur nos médias sociaux, on vous voit avec votre conjoint Arnaud, Thomas, qui a 13 ans maintenant, et son chien Tao, un chien d'accompagnement, un chien Mira, qui, je pense, pour vous, votre famille, Thomas, en l'occurrence, a été une bonne ressource.
Tout à fait, tout à fait. Le chien qui est maintenant à la retraite depuis septembre dernier. Malheureusement, je n'avais pas de photos récentes et ce qui m'a un peu gênée, c'est que je n'avais pas de photos oui. avec nos grands garçons.
Oui.
Et je prends beaucoup, beaucoup de photos et j'ai réalisé que, en fait, j'ai très peu de photos officielles de famille comme toutes les bonnes familles qui ont le portrait officiel sur au-dessus de la cheminée. On n'a pas ça chez nous.
En même temps, ça me ramène à des choses que j'ai lues sur vous, sur votre famille. Lorsque Thomas est arrivé, il y a eu une espèce de planète. Thomas, vous dites, tout tournait autour de lui. Ça démontre peut-être un peu ça. Et qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que vous, votre conjoint, vous étiez parent déjà de 2 grands garçons. Ça aide pas à recevoir un enfant qui vit avec des différences comme Thomas.
Bien, ça aide pas, pas certaine parce qu'ils étaient à ce moment-là ados ou ils rentraient dans l'adolescence. Donc, au contraire, ça aidait parce qu'ils étaient quand même assez autonomes. J'appelle ça le tsunami, Thomas, quand il est rentré. On se sent assez dévasté. Les images d'Haïti me rappellent, en fait, ces moments-là. On reçoit ça parce qu'on a toujours l'impression que ça ne nous arrivera pas,
ouais.
ce genre de diagnostic-là. Et c'est arrivé. Alors, un tsunami. Oui, tout tournait autour de Thomas, je dirais, pendant 2-3 ans. Puis moi, je le vois comme une espèce de phase d'adaptation où, premièrement, tu te mobilises. Puis dans un couple, on se mobilise à géométrie variable. Moi, c'était ouais. une mobilisation presque obsessionnelle. Avec l'Internet, je lisais tout. J'allais visiter des écoles. Je contactais les organismes. Mon chum était plus en mode passif, je pense, qui s'adaptait autrement. On a chacun nos façons de faire. Et oui, il y a eu une phase d'adaptation. Je pense que il faut y mettre le temps, il faut être patient. Puis on cherche l'équilibre en bout de ligne. On cherche à se retrouver comme individu, à se retrouver comme couple, puis à se retrouver comme famille. Fait qu'on est une période, je dirais, là, où la dévastation, là, où on se lance un peu partout sans trop savoir où tout ça va nous mener, parce que, oui, avoir un enfant handicapé, c'est beaucoup de points d'interrogation.
Oui. Ce diagnostic-là, il n'arrive pas dès la naissance de Thomas. Ça a pris 18 mois. Est-ce que c'est long, 18 mois, Isabelle?
En fait, dans notre cas, c'est que on n'a pas... Thomas a convulsé, c'est-à-dire qu'on l'a trouvé en statut épileptique alors qu'il avait 18 mois.
OK. Mm-hmm.
Avant ça, moi, je soupçonnais quelque chose. J'en parlais à mon médecin de famille qui me répondait dans ces mots-là. Toutes les mamans sont comme ça, ma petite madame. Faites-vous-en pas. Chaque enfant va à son rythme. Alors... Ouais. Quand on a reçu le diagnostic le 15 mars 2005, il y a des dates comme ça qu'on n'oublie pas, disons qu'on ne s'attendait pas à quelque chose du genre, là, d'aussi gros. Et en même temps, d'aussi gros et d'aussi vide, dans le sens où c'est quoi ça? En fait, il est né avec une pathologie, une agénésie du corps calleux, une malformation cérébrale. Et ça, ce que les médecins disent, ils se prononcent pas. C'est bon, ben c'est bonne chance
ouais.
pour le reste. Alors, tu pars de l'hôpital, tu pars des soins intensifs, tu dis, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Ouais. Il y a quelque chose aussi dont vous parlez, on parle d'outils, on parle d'obstacles, on va y revenir aussi, mais il y a l'humour, où, à un moment donné, le constant, c'est quand on jongle avec plein de balles, elles tombent par terre, il faut juste comme rire de ces balles qui nous roulent sous les pieds. Ça vous a aidé, ça, dans le parcours?
Oui, définitivement, parce que... Je pense que j'aurais pleuré, puis je pleurais encore toute ma vie, là. Tu sais, quand les gens me demandent comment va Thomas, je dis souvent, petit train va loin. Tu sais, c'est là, l'apprentissage d'un enfant, d'un jeune qui a une déficience intellectuelle, en fait, c'est exposant 10 en termes de vitesse. Fait que, puis dans nos vies de fous, et ouais. Je dirais dans des sociétés de fous comme on connaît, il y a comme un clash. Nos enfants sont... cadre pas dans ces vies-là. Alors, c'est évident que comme parent, comme famille, faut que tu te resitues là-dedans. Là. C'est un shutdown. Là. C'est un nouveau système d'exploitation là, qui vient, qui arrive, puis tu te dis, on replace nos affaires. Là. Ça marche pas.
Ça a modulé votre parcours, bien sûr, l'arrivée de Thomas. Et en même temps, vous dites... c'est imprégné, parsemé de moments de pur bonheur. Il y a des retombées positives également.
Oui, puis c'est important de souligner. Ouais. C'est très important. Chez Thomas, ça peut paraître ésotérique, là, mais je trouve qu'il y a de la pureté. Il y a une simplicité chez ces enfants-là. Il y a 13 ans, puis je vois des enfants de 13 ans typiques et déjà... Il y a des choses qui changent. C'est plus des enfants. Et Thomas, il conserve ça. Est-ce qu'il va le conserver toute sa vie? Je le sais pas, mais ça s'aligne pour être une personne de cœur, une personne qui sent ce qui se passe autour de lui autrement qu'avec le rationnel qu'on a l'habitude de connaître. Là.
La planète Thomas.
La planète Thomas, en plein ça.
Isabelle, je veux que l'on revienne, et on va le faire avec la prochaine intervenante, à ce vide-là auquel est confronté les familles qui reçoivent un diagnostic. Dans votre cas, ça a été de la déficience intellectuelle chez Thomas. Il y a ce vide-là, on vous dit bonne chance, ma petite madame, mais il faut continuer. On a besoin d'aide, on a besoin d'encadrement. Quels sont ces services-là? On en parle dans quelques instants avec Hélène Morin. Deuxième partie de cette émission, toujours dans le portrait de famille d'Isabelle Perrin. Je vous rappelle ce qui s'en vient. Tout à l'heure, Amélie Sigouin, elle, directrice générale de la Maison Bleue, nous parle de comment accompagner les familles plus vulnérables. Également, Maryse Massé, ergothérapeute, sera là pour nous parler de l'importance de la stimulation précoce auprès des enfants qui vivent avec une déficience intellectuelle. Et on poursuit avec Isabelle. Je pense que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous avez une très belle plume. Vous avez écrit beaucoup. Ça sert à quoi, l'écriture? Est-ce que c'est une forme un peu d'exutoire?
Peut-être. Faudrait que j'en parle à mon psy. Mais je pense derrière ça, il y a aussi l'idée de contribuer à faire un monde meilleur, à sensibiliser les gens, parce qu'on n'entend pas parler beaucoup de nos enfants. Hein. J'ai toujours dit qu'ils sont en marge. Ils sont dans voie de service. De temps en temps, on entend parler d'un événement qui se passe. On entend parler beaucoup d'enfants avec un trouble du spectre de l'autisme. Ils sont là en nombre. Nos enfants avec une déficience intellectuelle ne sont pas là en nombre, mais par contre, ils sont là. Et ouais. Il faut juste pas les oublier.
Ouais.
Et c'est un peu ça que je cherche à rappeler.
Avec l'écriture, vous dites à un moment donné dans vos textes, est-ce que l'empathie s'enseigne? Une façon peut-être dans l'écriture, et il y a ce portrait où Thomas vit de l'intimidation et vous avez envie de parler à cet enfant qui l'a intimidé, qui deviendra un adulte et un citoyen qui aura de l'impact aussi dans sa société. Il y a une façon de continuer à semer l'ouverture à la différence.
Ça s'enseigne. Je pense dernièrement, moi, je l'ai vu dans les journaux en Norvège, on enseigne l'empathie. Oui? Je me replace à il y a 11 ans quand on a reçu le diagnostic de Thomas, et je l'avoue candidement, j'étais la plus grande des ignorantes. Je connaissais rien à la déficience tout court. Donc, je partais très loin. Là. Quand on parle d'adaptation, J'étais dans ma bulle performante, là, oui. Carrière, enfant performant, et là, la bulle pète. Donc, il y a tout à apprendre. En fait, j'ai appris la vie à travers Thomas. J'ai appris la tolérance. J'ai appris à prendre le temps d'écouter, à prendre le temps de vivre. Point, à ralentir. Puis, comme parent, je pense que tu n'as pas le choix parce que tu ne peux pas survivre à ça.
Ouais.
C'est capital, à mon avis. Là. Moi, j'ai eu à le faire. Puis, je dirais que c'est un processus en continu. Hein. Le parent est continuellement confronté à ce monde-là. T'sais, quand je rencontre des enfants de 13 ans, à chaque fois, je réagis, il y a une émotion, je me dis, qui serait Thomas sans ce maudit gène? parce que Thomas a un syndrome et c'est, il y a tout un mystère qui enrobe cet enfant-là. Et en tout cas, je me dis, il faudrait que je revienne dans 40 ans pour en parler, mais
ouais.
c'est encore là.
Ouais. Vous avez appris quelque chose qui, à mon sens, est important aussi, c'est l'importance du réseau humain. J'ai envie de vous citer, je ne peux pas le faire toujours à travers cette émission-là, mais dans votre cas, je peux, Isabelle Perrin. Vous dites, être parent d'un enfant handicapé, c'est développer un réseau, comprendre la structure administrative dans laquelle on nagera pour le restant de notre vie, système de santé, système scolaire, apprendre le jargon, le fonctionnement, c'est beaucoup d'apprentissage, suivre les complexes de réorganisation de services, connaître ses droits, les défendre, connaître les différents programmes des différents ministères, documenter, archiver les rapports, les bulletins, les évaluations, tenir l'agenda des rendez-vous, trouver la garderie, le camp de jour. Et le secret dans tout ça, c'est le réseau humain. Il y a beaucoup d'organismes qui vous ont aidé dans votre parcours, dans le parcours familial. Il y a MIRA, on en parlait tout à l'heure. Il y a la solidarité de parents de personnes handicapées. Je me fais une place en garderie. Ces gens-là ont été un réseau, le premier peut-être pour vous?
Oui, ça a été le premier, en fait, c'est Solidarité de parents. Sa première intervenante qui est rentrée chez nous, et je la nomme parce qu'elle est toujours là, c'est Caroline Lavoie. Et je me souviens d'une phrase qu'elle a dite, c'est « Il faut que vous créiez un réseau.
Mm-hmm. »
Et je l'ai toujours gardé en tête. Et ce réseau-là, vraiment, on le bâtit au fur et à mesure. Et de ce réseau-là, il y a beaucoup de parents. En fait, moi, je trouve que c'est les meilleures ressources qu'on puisse avoir. C'est des ressources terrain. Donc, j'ai envoyé mon fils à ce camp de jour-là. Je connais ce répit-là. Je connais cette école-là. Et ça, ça n'a pas de prix.
Mm-hmm.
Les gens du réseau ont leur connaissance, mais ils le vivent pas. Ils reçoivent des bottins de ressources, alors que nous, on connaît les ressources, on connaît les gens qui y travaillent. Donc, oui, l'importance de de créer ce réseau-là, il est constant parce que nos enfants vieillissent et tout le contexte autour change. Donc, c'est hyper important de rester à jour. Et puis, tout ça, mine de rien, nous porte à nous engager. Ce que je vois souvent des parents qui s'engagent dès l'arrivée du diagnostic, en général, restent engagés pendant tout le parcours.
Oui. Vous êtes vous-même engagé dans le conseil d'administration, je pense, de l'Association de parents pour la déficience intellectuelle.
Oui, tout à fait.
Et les troubles envahissants du développement. Donc, on reçoit, on redonne cette espèce de roue-là. Je la sens bien. Je veux revenir sur l'entrevue avec Hélène que l'on a eue tout à l'heure. Vous l'avez dit tout bas. Je ne sais pas si les gens ont entendu lorsqu'on parlait de sa grande fille Geneviève qui, elle, a vécu bien pour la famille d'Hélène, tant mieux, ce 21 ans-là et plus, qui est un grand vide qui fait peur aux parents qui ont des enfants avec des besoins particuliers. Vous avez dit tout bas, ça s'en vient. Vous y pensez déjà, étonnant, il y a 13 ans.
Oui, et j'ai l'impression que ça va venir vite. Je vois ce qui s'offre et ça me désole. C'est minimal et j'ai l'impression que c'est des services qui n'évoluent pas. Je me dis, tout change et il y a une réflexion à avoir. Et actuellement, le problème, c'est que le réseau est dans la restructurite aiguë et ne repense pas ses services comme tels. Et je trouve juste que c'est pas adapté. J'imagine pas mon fils aller travailler dans un sous-sol et faire du déchiquetage ou faire de l'enfilage de perles. Je me dis, c'est pas ça qu'on lui a offert avant 21 ans. Thomas est un citoyen qui vit dans son quartier. On va au théâtre, on va à la bibliothèque, on est actif. Et on ne veut pas que ça cesse à 21 ans. Et j'ai l'impression que les gestionnaires du réseau n'en sont pas là. J'ai l'impression qu'on vit comme il y a 20 ans, là. Et comme parent, comme moi, je ne veux pas ça.
Ouais. Continuer à aller au théâtre, à la bibliothèque. Thomas fait du skate. Il est très actif. C'est une façon de le garder stimulé. On va en parler de cette importance-là à l'instant avec Maryse Massé.